Chers auditeurs, c'est une église nouvelle et pour ainsi dire méconnaissable qui voit le jour à la signature du Concordat le 15 juillet 1801 entre les plénipotentiaires du premier consul et le légat du pape Pie VII, le cardinal Gonsalvi. Elle tenait beaucoup de la constitution civile du clergé, cette église, mais sans différencier sur plusieurs points. Ainsi était abandonnée l'élection des évêques et des curés au suffrage populaire. Le premier consul retrouvait l'antique prérogative des monarques d'Ancien Régime. C'est lui qui nommerait les évêques et le pape, ensuite, leur accorderait l'investiture canonique. Il revenait à l'évêque de nommer les curés et les vicaires. La carte géographique de l'Église de France était bouleversée et l'on retenait le principe de faire coïncider les limites des diocèses avec celles du département. Mais l'état des finances publiques exigeait des économies drastiques. Il fallait restreindre le plus possible le nombre de diocèses. C'était en effet l'État qui devait payer les évêques et les curés. Il convenait par conséquent de confier plusieurs départements au même évêque. C'est ce qui advint pour le diocèse de Bayonne. Le 10 avril 1802, 8 jours avant la proclamation solennelle du Concordat, le cardinal Caprara, représentant permanent du pape à Paris, signait le décret d'érection du nouveau diocèse de Bayonne. Il s'agissait bien d'un nouveau diocèse et non de la reconduction plus ou moins aménagée de l'ancien. Le légat désignait tout d'abord le siège de l'évêché. La ville de Bayonne était réintégrée dans son antique prérogative de ville épiscopale. Et l'église qui allait recevoir le siège de l'évêque était celle qui était connue sous le vocable de Sainte-Marie. L'antique cathédrale retrouvait donc son affectation d'autrefois. Le légat créait également un chapitre qui aurait en son sein un chanoine théologal et un chanoine pénitencier. Il revenait à l'évêque qui serait choisi plus tard de nommer les membres de ce chapitre et de rédiger pour eux des statuts. Cet évêque devrait également créer des paroisses autour des églises qui se trouvaient dans les agglomérations. Ce nouveau diocèse de Bayonne devenait suffragant non plus d'Auch, mais de Toulouse, et comprenait les villes, bourgs et villages situés à l'intérieur des 3 départements des Landes, des Hautes et des Basses-Pyrénées. Il englobait désormais 6 anciens diocèses, sans compter des lambeaux de territoire appartenant jusque-là aux diocèses de Bordeaux et de Bazas, récupérés par les Landes, et d'autres relevant du diocèse de Comminges, attribué désormais aux Hautes-Pyrénées. Cela donnait un diocèse énorme, de plus d'un million d'habitants, avec quelques 1500 paroisses. Et le siège de l'évêché était on ne peut plus excentrique. Les choses vont durer ainsi une 20aine d'années. Ce qui caractérise la nouvelle Église de France et par conséquent le nouveau diocèse de Bayonne, c'est sa forte centralisation, et le pivot en est l'évêque. Le chapitre perd la plupart de ses anciens privilèges. Son autonomie prend fin, car c'est désormais l'évêque qui en nomme les membres. Il ne s'agit plus comme avant de cooptation. De même, le simple prêtre qui prend la tête d'une paroisse perd l'indépendance dont il jouissait en fait avant la Révolution. Sa nomination dépend désormais de l'évêque et de lui seul. Le premier consul, écrit un historien, n'oublie pas que les curés ont fait la révolution et il n'entend pas qu'ils recommencent. Puisque les évêques dépendent de lui pour leur nomination et pour leur rémunération, le premier consul pense établir en France une église qui sera également pour le plus grand profit de son prestige et de son pouvoir. À ce nouveau diocèse de Bayonne, il fallait un nouvel évêque. Après de vives discussions, il avait été convenu au Concordat que le corps épiscopal comprendrait des évêques d'ancien régime, d'anciens évêques constitutionnels et des évêques choisis dans les rangs du clergé. L'évêque constitutionnel d'Oloron, Sanadon, était mort en 1796. Le corps électoral lui avait donné bien, et bien plus tard, un successeur en la personne de Sorine, évêque constitutionnel des Landes, originaire d'Eysus, près d'Oloron. Il était bien vivant en 1802 et c'est lui qui prit la tête des évêques constitutionnels qui refusaient tout reniement du passé pour pouvoir entrer dans l'épiscopat concordataire. Il fut nommé par le premier consul évêque de Strasbourg. Monseigneur de Villeviel, l'ancien évêque de Bayonne, était mort en 1793 en Espagne au couvent des Bernardins d'Oliva. Monseigneur de la Fée, dernier évêque légitime d'Oloron, était mort lui aussi en exil. Restait seul en vie le dernier évêque de l'Escar, Monseigneur de Noé, qui s'était retiré d'abord à Saint-Sébastien et puis en Angleterre. C'est là que l'atteignit la décision du pape demandant leur démission à tous les titulaires des évêchés de France encore en vie. Monseigneur de Noé adressa immédiatement la sienne, sa démission, au Saint-Père. De retour en France, Monseigneur de la Noé avait caressé l'espoir d'être nommé évêque de Bayonne. Mais le premier consul en décida autrement et Monseigneur de Noé fut désigné pour l'évêché de Troyes. Pour Bayonne, après avoir pressenti un premier candidat qui refusa le poste, le premier consul s'adressa à l'abbé Dombido de Crouzeil, un prêtre originaire de Pau, qui crut ne pouvoir accepter cet évêché, non pas qu'il lui déplût, mais, comme il l'écrivait à sa nièce, par un motif de délicatesse, pour ne pas enlever à Monseigneur de Noé la possibilité d'être placé sur le siège qu'il préférait. L'abbé Dombido de Crouzeil deviendra en 1805 évêque de Quimper. Le troisième essai fut le bon, et ce fut l'abbé Joseph Jacques Loison, oncle de l'un de ses généraux, que le premier consul nomma à l'évêché de Bayonne. Le premier évêque concordataire de Bayonne était né le 21 février 1744 à Azanne, dans le département actuel de la Meuse. Il avait été vicaire et puis curé de sa paroisse natale. En 1791, il avait prêté le serment constitutionnel au contentement et à l'édification de tous les habitants de la paroisse, souligne le procès-verbal de la commune. Il prétend ensuite le serment dit de liberté-égalité de 1792. Le 25 mars 1794, il abdiqua ses fonctions, mais ne livra pas ses lettres de prêtrise en affirmant qu'elles avaient été perdues lors de l'invasion prussienne de septembre-octobre 1792. On lui accorda de se retirer à Verdun, où il demeura jusqu'à l'embellie de 1797. Il put alors rentrer dans sa paroisse d'Azanne et reprendre ses fonctions de curé, Preuve, là encore, que son abdication de 1794 n'avait eu rien de bien sérieux. Mais il avait dû, le 27 juillet 1798, prêter le serment de haine à la royauté et souscrire la déclaration suivante « Je sous-signais Joseph-Jacques Loison, pensionnaire de la République, en qualité d'ex-prêtre, certifie que je n'ai ni rétracté, ni modifié aucun serment, ni déclaration voulue par les lois. Je déclare même être sincèrement attaché aux lois de la République à laquelle je suis invinciblement attaché. » 4 ans plus tard, le 5 juillet 1802, le curé d'Azanne était promu à l'évêché de Bayonne. On peut croire que le premier consul avait apprécié chez le nouvel élu les qualités qu'il voulait avant tout dans le nouvel épiscopat. Parfaite dignité de vie et souple et bienveillante attitude à l'égard du pouvoir civil. Monseigneur Loison recevait le 11 novembre 1802 l'institution canonique du pape et 3 jours après, il était sacré évêque à l'église Saint-Sulpice de Paris par Monseigneur Bernier, nouvel évêque d'Orléans, assisté de l'évêque d'Angers, ancien évêque constitutionnel de la Vienne, et celui de Poitiers, nouvellement promu à ce poste. Sitôt sacré évêque, Monseigneur Loison se mit en route pour rejoindre son lointain évêché. Nous verrons la prochaine fois son arrivée et ses premiers pas d'évêque au diocèse de Bayonne.